15-27, Valérie Beaudoin est là pour la chronique USA. Salut Valérie.
Salut.
OK, Steve Bannon, ça c'est l'ancien conseiller de Donald Trump, mais certains diraient même l'ancien maître à penser de Donald Trump. Il s'est rendu aux autorités aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on lui reproche?
Oui, en fait, on lui reproche de ne pas s'être présenté au Congrès, donc dans cette fameuse commission d'enquête sur la journée de l'insurrection du 6 janvier. J'en ai parlé à quelques reprises à l'émission. Alors, on le savait, on avait besoin de cette crédibilité-là, la commission d'enquête, de dire, ben si les gens refusent de se présenter, il va y avoir des conséquences. Et conséquences, il y a pour Steve Bannon, donc, qui a dû se rendre aux autorités pour deux chefs d'accusation, par rapport à un outrage au tribunal. Il a refusé de se présenter dans un premier temps et aussi de donner des documents, donc de la documentation sur les journées, la journée du 6 janvier et les journées auparavant. Et là, Steve Bannon est arrivé au palais de justice. Et il s'est rendu aux autorités. Il a passé devant le juge. On dit que ça s'est fait très calmement, très poliment. Mais en sortant, là, ça vient de se passer dans les dernières 30 minutes. Et il était vraiment furieux avec son avocat de dire que c'était une atteinte à la démocratie parce qu'il dit qu'il a le droit au privilège exécutif, même s'il n'était plus à l'emploi de la Maison-Blanche depuis à peu près 3 ans au moment des événements. Donc, il veut dire que c'est Donald Trump qui a le droit, qui a le dernier mot de dire s'il peut témoigner ou pas à cette commission d'enquête.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes là, de la galaxie Trump qui ont refusé de témoigner qui pourraient aussi se retrouver dans les tribunaux?
Et je vais même parler aux futurs qui vont refuser aussi de se présenter. Entre autres, Michael Flynn, qui est un ancien conseiller à la Sécurité nationale, qui d'ailleurs aujourd'hui a fait parler de lui parce que lui avait dit, entre autres, qu'il était pour la loi martiale pour renverser. Mais il a parlé aussi dans un discours aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, que ça serait bien d'avoir une seule religion, changer la Constitution pour qu'on ait le droit à une seule religion aux États-Unis. Écoute, hein? Une idée comme ça qu'il a lancée aujourd'hui, qui va se rendre très loin.
Valérie, je dis souvent que ces fondamentalistes américains, ils ont beaucoup en commun. Par exemple, avec des gens de la République islamique d'Iran. Là. C'est une religion différente, mais ils ont les mêmes vues sur la société. Là.
Oui, les vues un peu plus à l'extrême, on va le dire comme ça.
On va le dire poliment comme ça.
Oui, voilà, j'essaie, je suis toujours polie.
OK, donc, personnes de la galaxie Trump qui pourraient se retrouver dans le pétrin.
Exactement, mais c'est à voir le privilège exécutif, donc est-ce que ça pourrait être appliqué? Ça va peut-être même se rendre tout ça en Cour suprême pour déterminer, ben quand t'es encore à l'emploi du président, est-ce que ça entre là-dessus? Ou si Joe Biden dit, moi, peu importe ce qui s'est passé, c'est moi qui est le président actuellement, tout ce qui s'est fait avant, on peut en parler. Bref, on va voir s'il y a vraiment des conséquences juridiques pour ces gens-là.
OK. Et selon CNN, là, la lune de miel entre Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, ben c'est à peu près fini.
Et je vais te répondre en premier par une question. Est-ce qu'on la voit, Kamala Harris? Est-ce que tu entends parler d'elle?
Pas tant que ça, je te dirais.
Et moi, personnellement, je m'attendais à qu'elle ait une plus grande place. Je m'attendais, on en a tellement parlé.
Surtout que M. Biden est tellement vieux et frêle, il devrait peut-être la mettre en avant, parce qu'on ne sait jamais, un coup de vent est si vite arrivé.
Écoute, je ne répondrai pas à ça par politesse encore.
Non, mais là, à toutes les fois que je vois en public, je pense qu'il va tomber.
Mais c'est pour ça qu'elle est toujours en diagonale à l'arrière.
Okay.
C'est pour le protéger. Non.
Mais c'est quoi l'histoire de CNN? Oui. Là? Ils sont en chicane.
Écoute, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'elle, elle n'a pas de pouvoir, puis qu'ils sont tellement là, avec des problèmes à gérer à la Maison-Blanche qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de Kamala Harris et de son équipe. Dans le fond, ils la mettent de côté. Elle lui donne des dossiers où c'est pas intéressant, c'est pas bon pour elle pour des gains politiques, parce que je rappelle, on dit que c'est l'avenir du Parti démocrate, Kamala Harris, qu'elle est là pour peut-être se présenter dans moins de 4 ans pour être la prochaine présidente des États-Unis. Donc, il y avait vraiment une stratégie derrière ça, mais là, on la voit pas. On lui donne le dossier de la frontière où, écoute, c'est assez difficile de faire des gains politiques là-dessus. Le taux d'approbation de Biden va pas bien. On la voit pas, donc on la met dans des négociations un peu de corridor. On lui dit, bravo, tu nous as aidé pour XY dossier quand finalement elle n'a pas fait grand-chose. Il y a tellement de critiques et c'est le signe que ça va pas bien. C'est quand ta secrétaire de presse, à 9h le soir, va sur Twitter pour dire, après un reportage de CNN, ben, à ceux qui veulent l'entendre, tout va bien entre Joe Biden et Kamala Harris. Et c'est une leader incontestée et on a besoin d'elle. C'est une partenaire essentielle. Quand tu as besoin, même pas dans un point de presse, quand tu te fais même pas questionner en direct d'aller écrire ça sur Twitter, c'est qu'il y a peut-être un fond de vérité sur ce qui se passe et que justement, elle est mécontente de la place qu'on lui laisse dans l'administration actuelle.
OK. Et le président Biden va tenir un sommet virtuel avec le président chinois ce soir.
Oui, très important de regarder ce qui va se passer, est-ce qu'il va vraiment avoir des véritables conclusions là-dedans, on ne le sait pas. Un sommet virtuel, et je fais une parenthèse encore, parce que le président chinois n'est pas sorti du pays depuis le début de la pandémie. Il n'a assisté à aucune conférence à l'international, donc n'a pas quitté. Et c'est pour ça, justement, qu'on ne peut pas avoir un sommet à Washington ou ailleurs qui ne se sont pas rencontrés au sommet du G20. Ça se fait virtuellement, donc par Zoom. Écoute, c'est comme ça que ça fonctionne, les sommets aujourd'hui. Et beaucoup de dossiers. Le dossier de Taïwan, donc un territoire que réclament la Chine et les États-Unis veulent défendre les droits de Taïwan. Il y a une escalade dernièrement. Tout ce qui est au niveau de la cybersécurité, au niveau des droits de l'homme, il y a de la pression pour Joe Biden qui parle de la problématique des droits de l'homme qui ne sont pas respectés en Chine. On parle d'environnement, on s'en est parlé aussi récemment avec ce qui s'est passé pour la COP26, mais aussi tout ce qui est économie. Il y a encore vraiment des choses à résoudre entre les États-Unis et la Chine. Bref, beaucoup de dossiers. Et ce qu'on dit, c'est qu'on veut se concentrer sur ce qu'on a en commun et pas juste la confrontation. Donc, régler des problèmes, est-ce que c'est un sommet virtuel qui va tout régler entre la Chine et les États-Unis? C'est sûr que non. Donc, les attentes ne sont pas très, très élevées pour le sommet qui va avoir lieu à 19h45 ce soir en raison vraiment de l'heure qui est complexe, là, le décalage horaire entre la Chine et les États-Unis.
Et le procès de Kyle Rittenhouse, ce jeune homme là, qui est accusé d'avoir tué deux manifestants en 2020, à l'été 2020, ça tire à sa fin.
Oui, on est vraiment dans la conclusion des arguments des deux côtés, des deux parties. Justement, je regardais ça juste avant d'entrer en onde. Donc, le jury va devoir décider s'il est reconnu coupable d'homicide parce que lui, c'est un jeune homme de 17 ans qui était arrivé, qui est parti de l'Illinois pour se rendre au Wisconsin avec sa AR-15, son arme semi-automatique, pour dire qu'il voulait défendre les commerçants quand il y avait les manifestations de Black Lives Matter. Et lui, finalement, il se défend en disant « j'ai eu peur pour ma vie, donc j'ai tiré sur trois personnes en tuant deux ». Parce qu'on me courait après, entre autres, parce qu'une autre personne aurait pointé son arme pour elle-même se défendre. Bref, ce qu'on veut prouver là-dedans, les procureurs veulent prouver que c'est lui qui a créé justement cette inquiétude et que les gens qui sentaient une menace à sa vie parce que justement, il arrive avec une AR-15 dans une manifestation. Donc, il y avait déjà une provocation et c'est un procès tellement controversé parce que le juge ne voulait pas qu'on appelle les gens qui sont morts des victimes. On s'en est parlé une fois à l'émission. On pouvait les appeler des casseurs, mais pas des victimes. Il est décousu par moments. Il semble vraiment être contre les procureurs de la couronne. Bref, c'est tout un salaire d'un soap salaire. Tu sais, les émissions de Juge Judy ou des choses comme ça par moment.
Oui,
là,
oui. Mais
je trouve que ça manque de professionnalisme pour un dossier aussi important.
C'est un peu plus comique quand c'est des cas de petites créances. Maintenant.
Oui, et là, c'est plus dramatique. Donc, on va savoir dans les prochains jours, on pourra s'en reparler s'il est accusé, si la légitime défense, c'est vraiment une bonne défense pour lui ou finalement, il pourrait être accusé d'homicide pour ces deux personnes.
Merci Valérie, on se retrouve plus tard cette semaine.
À bientôt.
Hey, on va avoir un peu de musique de Noël.
Ben oui, on va se mettre dans l'ambiance, ça va nous réchauffer le cœur. C'est une journée triste aujourd'hui, il pleut. Je me disais, pourquoi pas mettre du bonheur un peu chez tout le monde?
Mon sapin de Noël arrive samedi, je tenais à le dire.
Tu vois, tu vas faire ton sapin avant le 1er décembre.
Oui, c'est une tradition chez nous.
Bon, ben je pense qu'on va arroser ça avec la musique.
OK, musique tantôt.